Bonjour à tous.
Bonjour.
Ça va bien ce matin?
Oui.
Vous avez vu ça? C'est un temps magnifique. On voit les pèlerins qui passent avant. Enfin, c'est les pèlerins de Compostelle. Je dis ça pour ceux qui sont sur Révélation Bible, qui viennent nous écouter. Écrivez-moi des petits mots. De temps en temps, ça me ferait plaisir. Que Dieu vous bénisse. Donc je reviens sur ma méditation de vendredi soir au sujet de Romains chapitre 5 versets 1 à 11 que je lisais dans la version d'Alfred Kuhn. C'est la parole vivante, mais c'est la vieille parole vivante, celle qui est sortie au tout début, que j'aime bien les nouvelles, des choses que j'aime pas trop. Enfin, voyez-vous, c'est comme ça. Mais l'ancienne, elle est bien, j'aime beaucoup. J'avais rencontré Alfred Kuhn à, je sais plus où, en Afrique, quelque part. Je me demande si c'est pas... Je sais plus où c'était. On avait discuté, c'est un homme formidable. J'ai des photos avec lui, je suis fier. Pour moi, c'est un homme de Dieu formidable. Il a écrit d'autres livres aussi. Donc je reviens sur cette méditation, et si vous ne l'avez pas écoutée, écoutez-la, ça vous aidera à mieux comprendre ce que je vais dire ce matin. Je m'étais arrêté sur le fait qu'il y a une relation entre notre souffrance et nos épreuves présentes et notre gloire future. Alors bon, parler d'être rempli de joie au milieu des épreuves et des souffrances... moi, j'éclate rarement de joie au milieu des souffrances. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas là. Ah, youpi, je souffre, c'est génial. C'est pas mon genre. Mais je pense que c'est le genre de personne, à part ceux qui sont masochistes, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Paul? Alors, j'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai médité, et j'en suis arrivé à cette conclusion. La joie... C'est le lien entre la souffrance présente, ici-bas sur cette terre, et la gloire à venir qui nous attend dans les cieux, quand nous verrons Dieu face à face et que nous serons comme Christ, hein, comme on l'a vu vendredi. Mais c'est le lien, là, cette joie, c'est le lien. C'est en lisant attentivement les versets 3 à 5 que j'ai compris. D'ailleurs, je voulais lire, vous allez voir, c'est magistral. Il y a plus dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. La patience nous affermit et développe notre fort caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Et lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Or, l'espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime et nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. Alors, lu comme ça vite fait, c'est très beau, mais je me suis imprégné de ce texte, je l'ai bien décortiqué. Et je vais vous apporter ça ce matin. Ce n'est pas que nous trouvions notre joie dans la souffrance elle-même, mais plutôt dans les conséquences bénéfiques qui accompagnent les souffrances. Vous voyez, je suis en train de dire « Ah, c'est super, je souffre. Ah, c'est super, le frère un tel m'a trahi. Ah, c'est génial, ça fait plaisir. » Non, je vois ça. Je ne suis pas masochiste du tout. Et je ne pense pas que vous aimiez souffrir. Personne n'aime souffrir, ni d'une manière, ni d'une autre. Frères et sœurs, nous sommes des disciples de Jésus-Christ qui voyons dans nos souffrances le plan de Dieu en action, le plan de Dieu qui se réalise. Nous nous réjouissons de ce que produit la souffrance. La détresse, elle produit la persévérance. La persévérance produit la fidélité éprouvée. Et c'est à cause de ce que la souffrance produit que nous nous réjouissons. Alors, quelles sont les réalisations de la souffrance, des épreuves, des difficultés, des détresses? Parce que ce sont les mots que l'apôtre Paul emploie. Et premièrement, la souffrance produit la persévérance. Ça signifie que la persévérance même qui nous est nécessaire dans la souffrance est produite par la souffrance elle-même. C'est un peu comme les anticorps. Les anticorps qui sont produits en nous à cause d'une infection. Il n'y a pas d'infection, il n'y a pas d'anticorps qui se manifeste. Nous ne pouvons pas apprendre la persévérance sans souffrir. Parce que sans souffrance, il n'y a rien à supporter. Deuxièmement, la persévérance, elle produit la fidélité éprouvée. Alors j'ai été regardé dans plusieurs autres versions, j'ai trouvé, comme toujours, Darby, il est fantastique. Darby ne dit pas « la persévérance produit la fidélité éprouvée », mais il dit « elle produit l'expérience éprouvée ». J'aime bien ça. J'ai été regardé dans les notes et j'ai vu que le mot « fidélité » ou « expérience », c'est un mot grec, « dokim », je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mon grec est quand même très limité. Et le mot « dokim », il décrit la qualité de quelqu'un ou de quelque chose qui a été testé et qui a résisté à l'épreuve. Pensez au roi David. On a un exemple extraordinaire. Je vais vous le lire dans 1 Samuel 17, 37-39. Il a refusé de prendre l'armure qu'on lui proposait pour aller lutter contre Goliath parce qu'il ne l'avait pas, il ne l'avait jamais éprouvé, il ne l'avait jamais expérimenté le fait de porter une armure pareille. Alors, 1 Samuel 17, 37 à 39. David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivra aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtut d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait jamais encore essayé ça. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, et il choisit dans le torrent 5 pierres lisses, il les mit dans sa gibecière de berger, dans sa poche, enfin sa fronde, à la main, il s'avança contre le Philistin. Vous voyez, ça c'est le texte qui est le plus en rapport avec ce que l'apôtre Paul nous dit là. C'est magnifique, magnifique. L'expérience produite par la persévérance, elle-même produite par la souffrance, fait de nous des chrétiens qui acquièrent une maturité. La troisième chose, la fidélité éprouvée, l'expérience éprouvée, produit l'espérance, c'est-à-dire l'attente confiance en la gloire à venir. Quand on a une expérience qui a été éprouvée, c'est qu'on est balèze et qu'on est en marche vers la gloire à venir. Moi, je suis émerveillé par la sagesse de Paul. Vous vous rendez compte, ça fait plus de 2000 ans, c'était pas des imbéciles à cette époque-là. Hein, la sagesse de Paul, c'est quelque chose. La maturité du caractère, née de la patience, apprise dans la souffrance passée, vécue, apporte avec elle l'espérance de la gloire de Dieu à venir. Notre développement, la maturation de notre caractère de disciple prouve que Dieu est à l'œuvre en nous, en fait. Ce qui n'arrive rien sans que Dieu ne le veuille. Et le fait que Dieu soit ainsi à l'œuvre en nous, nous donne la foi, la confiance, qu'il ne va pas laisser son travail inachevé, il va continuer jusqu'au bout. C'est pas le genre à faire un truc, puis oublier, j'ai oublié. Non. Il va jusqu'au bout de ce qu'il fait, Dieu. S'il travaille en nous maintenant, pour transformer notre caractère, pour nous conduire à la fin, en toute sécurité, vers la gloire, il le fait d'une façon parfaite. Alors, comment le dire en sachant tout ça? Ben, comme Paul le dit, mais on peut le dire aussi un peu autrement, on peut dire, nous nous réjouissons non seulement de la fin, c'est-à-dire de la gloire, mais encore des moyens, c'est-à-dire de la souffrance, des épreuves, des détresses et tout ça. Nous nous réjouissons de tout cela. C'est la conclusion de cette démonstration que l'apôtre Paul fait au verset 5. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime, il nous a donné son Saint-Esprit, qui a rempli nos cœurs de son amour. Paul dit, l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne risque pas d'être, on risque pas d'être dupé. Vous vous rappelez de ce pasteur belge à la fin de mon voyage, où seront couronnés? Oui. On s'en rappellera toujours. Je le dis ou je le dis pas? Non, je le dis pas, c'est affreux. Alors, certains peuvent dire, mais comment savoir que c'est vrai? Comment savoir que c'est vrai? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'imaginer ça? L'apôtre Paul, il parle juste un petit peu avant, il dit... Je ne sais pas où, mais il le dit, que si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'est pas... Voilà. Évidemment, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit de Christ en lui, ne fait pas partie des siens, il n'est pas un vrai chrétien. Donc il peut se poser la question, mais non, on ne se pose même pas la question. Ça fait partie d'un tout. Surtout quand Paul nous l'explique. Et toute cette écriture, elle est là pour nous édifier, nous faire comprendre les choses. Comment savoir si c'est vrai? Paul dit, en affirmant que Dieu nous aime, et que c'est lui qui nous a donné son esprit qui vit en nous, c'est lui qui vit en nous, et qui remplit nos cœurs de son amour. L'amour de Dieu que nous avons nous vient de l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, qui est Dieu lui-même qui vit en nous. Et c'est parce que Dieu a déversé son amour en nous que nous savons, c'est pas quelque chose qu'on imagine, que nous savons, au-delà de toute question, qu'il va nous amener à la gloire. Voilà le raisonnement spirituel. On a le droit d'avoir des raisonnements spirituels. C'est un raisonnement spirituel. Notre espérance est de voir et de partager la gloire de Dieu. C'est ce qu'on a lu vendredi. Nous croyons que cette espérance est une espérance bien fondée et qu'elle n'est pas une duperie ou le fruit de notre imagination déréglée. Elle ne nous décevra pas. Nous le savons par le Saint-Esprit qui vit en nous. Nous savons ça parce que Dieu nous aime il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas, jamais. Et nous savons que Dieu nous aime parce que nous avons une expérience intérieure que les païens n'ont pas. Alors ils ont une espèce de croyance, à quelqu'un qui meurt tout de suite, ils disent il est au ciel, na 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 na. Ouais. Ils n'y croient pas, mais ils le disent, oh, il est parti au ciel. Non, je suis désolé, il y en a qui n'iront pas au ciel. Mais nous, nous avons le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous savons parce que nous avons une expérience intérieure qu'on peut exprimer par des mots, mais on ne peut pas vous pouvez pas vivre à notre place. Ça a été répandu en nous par le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné. Le Saint-Esprit a été donné à tous les croyants et c'est un des effets du Saint-Esprit en nous que de répandre l'amour de Dieu en nous. Pas notre amour pour Dieu, mais l'amour de Dieu pour nous. Bien sûr que nous aimons Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés en premier. Puis c'est par l'expérience des expériences que nous faisons avec lui que nous l'aimons de plus en plus. Michou et moi, demain on va fêter nos 52 ans de mariage. Je vous garantis, elle peut dire la même chose. On s'aime plus aujourd'hui qu'il y a 52 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a des expériences. On a vécu des choses qui nous confortent dans cette, qui fortifient cet amour, cette foi que nous avons l'un dans l'autre, cette confiance que nous avons l'un dans l'autre. On va lire Romains 8, 16, 17. Romains 8, 16, 17. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Enfant de Dieu ? Mais alors nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme Christ. Et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi nôtre. Oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. Mais associés aux souffrances de Christ, mais Christ n'a jamais été malade, c'est pas cette sorte de souffrance que Paul parle. La maladie et toutes ces choses-là, c'est des choses qui le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et voilà, on peut tomber malade parce que notre corps, il est fragile. Et puis, voilà, quoi. Surtout en vieillissant. Mais comme je vous le disais, ces épreuves, ces choses, les souffrances de Christ, c'est les souffrances, l'opposition diabolique, religieuse, l'opposition des imbéciles, l'opposition des méchants, des démons. Il faut ajouter en soi les souffrances de Christ, porter les souffrances de Christ. Si on porte les souffrances de Christ, on portera sa gloire aussi. C'est ce que je viens de vous lire. C'est ce qui est écrit. Ça fait partie d'un tout, c'est une perfection, c'est quelque chose d'absolument magnifique. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit atteste à notre esprit, nous avons un esprit... Nous avons été faits de matière, mais Dieu a mis un esprit en nous, nous sommes devenus des êtres vivants. Et l'esprit de Michel Janton, il est en communion avec l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas être en communion à ceux qui sentent la présence de Dieu, mais ça me fait hurler de rire. On n'a pas besoin de sentir la présence de Dieu. C'est charnel. C'est bien sûr, ça fait plaisir. De temps en temps, on tressaille Mais c'est pas parce qu'on sent la présence de Dieu que Dieu est là. Dieu est toujours avec nous. Mais son esprit en nous atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est une certitude. Personne ne peut nous enlever ça. Et ça me transporte de joie. Bon, le fruit de la justification est triple. C'est la paix, la gloire, la grâce, la gloire. La paix, la grâce, la gloire, comme je vous disais là, vendredi passé. Et cette justification, c'est un acte précis. Quand je dis que c'est un acte, je devrais dire que c'est une décision judiciaire de notre Dieu qui nous a acquittés, qui nous a rendus justes comme si on n'avait jamais péché. Voilà comment Dieu voit les chrétiens. Et cette justification nous conduit à une relation permanente avec lui. C'est pas parce qu'on a reçu le Saint-Esprit tel et tel jour, il y a quelques années en arrière, que voilà, on se réjouit, ah ben j'ai reçu le Saint-Esprit, à l'air. Non, c'est permanent. Il nous conduit, c'est une relation permanente avec lui par les choses que nous vivons tous les jours, chaque jour, par les souffrances qui sont le lien entre la paix et l'espérance, entre la justification et la glorification. Vous voyez, vous comprenez tout ça? C'est quelque chose de glorieux. Alors je vais m'arrêter là parce que ça suffit, je l'ai déjà dit beaucoup, et ça demande réflexion, ça demande d'être bien compris, d'être bien saisi. Je vous demande de réécouter cela, de le partager aussi avec les autres, d'envoyer ce message à d'autres, à des gens que vous connaissez, principalement à des chrétiens. Et je reviendrai vendredi dessus si Dieu le veut, si Dieu me prête vie, comme on dit. C'est quelque chose de tellement extraordinaire, mais il faut que ça soit bien compris. Il ne suffit pas de dire simplement « Ah oui, Amen, Alléluia, passe-moi le sel ». Non, il faut que ça soit compris, qu'on puisse le dire aux autres, qu'on puisse l'expliquer aux autres. Tant que vous ne pouvez pas expliquer quelque chose aux autres, c'est que vous n'avez pas compris vous-même. Il faut que vous puissiez l'expliquer aux autres. Alors, réécoutez ce message, apprenez bien les points dont je vous ai parlé, que l'apôtre Paul, dont l'apôtre Paul parle, et que j'ai un peu décortiqué, afin que, de rendre ça peut-être un peu plus accessible, parce que l'apôtre Paul, quand il s'exprime, l'apôtre Pierre lui-même, il dit, c'est des fois un peu difficile à comprendre ce que l'apôtre Paul dit. Et je prie pour vous afin que vous soyez bien assurés que Dieu vous aime. Amen. Au revoir. Amen. À bientôt.